Voilà, on n'a pas beaucoup de temps ce matin, mais on va faire avec le temps qui nous reste pour ouvrir la parole de Dieu dans Juges, chapitre 6. Vous connaissez bien ce passage? C'est Gédéon. Il y en a qui aime bien Gédéon? Hein? On a tous un petit peu un personnage favori, là, dans l'Ancien Testament.
Qui a le personnage de Gédéon comme favori?
Il y a quelqu'un qui a choisi le personnage de Gédéon? Non? T'es Gédéon, Rémi, non? Non? T'es quoi? T'es Daniel? T'es... David? Tu sais pas. T'as pas choisi. Tu sais pas encore? Ah bon. Non, mais c'est pas nécessaire hein, d'avoir un personnage. Goliath. T'es Goliath? Oh!
Rémi!
On va prier pour toi, là. Goliath. Et il sent de l'humour, hein, Rémi. Voilà. Juge, chapitre 6. Les Israélites firent ce qui est mal. Ah, ça commence mal. Firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans.
Pas terrible. Hein.
Je sais pas ce qui se passe avec le micro. On a des problèmes de micro là. Ah. Voilà comment commence le livre des Juges. Mais régulièrement, le livre des Juges, il y a ça. Hein. C'est mauvais comportement. Non, tu m'as mis une bonne pile, hein, c'est 100%. Non, mais c'est tous les systèmes, il faudra prier pour imposer les mains au système sonore. Ah, c'est les problèmes d'ondes hertziennes, de communication. Vous savez, quand on a eu un combat spirituel terrible dans l'église, toutes les communications avaient des problèmes. Les ordinateurs ne marchaient plus, il y a des influences. Hein. Enfin, ceux qui connaissent le combat spirituel, ils le savent. Les Israélites firent ce qui est mal, et l'Éternel les livra entre les mains pendant 7 ans. Ne faisons pas de ça une théologie. Hein. Ça va mal, donc l'Éternel nous livre. Non. Non, mais souvent, il y a des évangéliques qui font ça. Hein. C'est un axiome à partir d'un verset biblique. Non, il faut comprendre la Bible dans toute son acception. Hein. C'est pour ça qu'il faut quand même un petit peu de théologie au sens de principe théologique. Hein. Comment interpréter la Bible. Mais il se trouve que c'est vrai que parfois le Seigneur n'a plus d'autre moyen que de nous livrer entre les mains de l'ennemi s'il a tout fait pour nous parler. Voyez. Donc n'attendons pas que le Seigneur soit obligé de faire ça. Voyez-vous. Pourquoi? Parce que parfois il n'a plus que ce moyen-là. Mais c'est pour nous sauver. Il le fait pas pour nous faire du mal. Mais c'est un des moyens que le Seigneur utilise parfois. Et c'est simplement à nous de ne pas nous entêter dans une certaine voie, d'être attentifs à la parole de Dieu, à observer la parole, et ça nous arrivera pas, hein, parce que c'est arrivé parce qu'il rompait l'alliance, et que c'était le peuple de l'alliance. Donc si nous sommes fidèles, il n'y a pas de problème. Hein, nous ne sommes pas livrés entre les mains, au contraire, nous sommes gardés. Amen. Jésus a dit, nul. Amen. Nul ne vous ravira de ma main. Donc si nous sommes dans la main du Seigneur, ça nous arrivera pas. Mais là, c'est arrivé, et la main de Madian fut puissante contre Israël. Hein. C'était pas juste un petit pouvoir, c'était une main puissante. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Vous voyez, c'était des retranchées, complètement. Hein. Et voilà que, il y avait Gédéon là qui était là, et qu'est-ce qu'il faisait? Il battait du froment. Hein, et il le battait en cachette. Hein, parce que quand il utilisait les moissons, ben les Madianites étaient là. Et bien sûr, il profitait de tout le travail qui était fait par les Israélites. Il le prenait et il les dépouillait. Hein, donc ils étaient vraiment malheureux. Et donc au verset 10, « Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays auquel vous habiterez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Hein. » Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébène d'Ophra, qui appartenait à Joas du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Voilà qu'un ange vient. Vous, Dieu agit dans les périodes sombres de l'histoire. Dieu agit et il parle à l'un ou l'autre, à des prophètes, à des gens qui doivent élever leur voix. Amen. Soyons de ces gens-là. Vous voulez être de ces personnes-là, même si C'est une période sombre dans notre pays de France, sur le plan spirituel, c'est vraiment les ténèbres spirituelles. Même s'il y a de l'abondance et de l'opulence, spirituellement, c'est des périodes sombres où les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais le Seigneur veut t'utiliser, toi. Il veut m'utiliser, moi. Amen. Quels sont ceux qui vont être utilisés par le Seigneur, hein? Et Dieu peut vous envoyer un ange. Il y en a qui ont rencontré des anges déjà? Ouais? Ouais? Je vois qu'il y en a. Oui, voilà. Les anges, ça existe, ils sont là. Dieu ne permet pas trop qu'on les voit, parce que, vous savez, on est tellement tendance à l'idolâtrie. Hein. Regardez le catholicisme, où il en est arrivé. On arrive même à adorer des reliques, hein, des os de saints et tout ça. Dieu ne permet pas qu'on voit les anges, mais ils sont là. Chacun a des anges autour de lui. Pourquoi je dis ça? Parce que la parole de Dieu le dit. Les anges sont des serviteurs que Dieu utilise pour nous garder, nous protéger. Et même si vous ne le savez pas, vous êtes gardés. Amen. Il y en a qui ont fait l'expérience d'accidents, par exemple, évités ou de choses comme ça, lever la main. Hein, ben c'est les anges. C'est les anges qui peuvent arrêter. Hein. Vous savez, un ange, si par exemple il y a un camion de 35 tonnes qui vient sur vous et qui vient là, il est capable de l'arrêter comme ça, hein, ou de le dévier, ou de, vous voyez, c'est ça. Hein. Donc il y a des interactions spirituelles grâce à des anges. C'est pas le hasard, hein. Croyez pas au hasard. Hein. Il y en a qui croient au hasard ici. Hein. Dieu est en contrôle de toutes choses. Amen. Et c'est lui qui envoie des anges. Et là, il a envoyé un ange pour parler à Gédéon. Donc Dieu prend soin de son peuple, hein, il parle. Donc voilà, au verset 11, on voit l'ange qui vient, et l'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros, pardon. Excusez-moi. Vaillant héros. Il y en a qui se croient des héros ici? Des héros? Ben vous êtes des héros. Hein? Si vous avez Jésus, vous êtes des héros. Des héros. Amen. Simplement, il faut devenir des héros de la foi. Ça, c'est un petit peu difficile. Ça a été le problème de Gédéon. Et c'est notre problème à nous. Hein? Parce que quand l'ange lui dit, tu es un héros, il regarde autour de lui. Il dit, quoi? Quelle révélation, un héros? Attends, je suis obligé de me cacher pour qu'on ne prenne pas mon froment, on est obligé de se terrer dans les cavernes, comme on a lu, et les caves et tout ça, pour qu'on puisse quand même subvenir. Et toi, tu me dis, c'est un héros. Alors, verset 14, l'Éternel se tourna vers lui, va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Voyez-vous, le message de l'ange de l'Éternel, c'est dire, bon, tu ne te crois pas un héros, mais tu es un héros. Et tu n'as pas de force parce que, effectivement, tu es sous la férule. Hein. Vous savez, ceux qui étaient à la Deuxième Guerre mondiale, il y en a qui, ici, qui ont vécu à la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, non, il y en a peu. Hein. Toi, Elsa, tu as vécu à la Deuxième Guerre mondiale? Il y en a plus, hein. Ma mimiton est partie, voilà. Mais bon, ma mère, bon, des fois, vous savez, c'est tellement marqué que souvent, ces personnes-là ressassent un peu tout ce qu'ils ont vécu, tellement c'était traumatisant. Moi, j'étais en Alsace, et en Alsace, vers la fin de la guerre, quand les Allemands ont commencé à perdre, ils ont pris tout le monde. Hein. Tout le monde était bon pour mettre au front. Donc mon oncle, il a été mis dans les SS et il était à Rouen là-bas. Il était au front russe partout et tout ça. Et à la fin, tout le monde était bon, hein, tout le monde devait y aller. Et ceux qui n'y allaient pas, ils allaient dans les camps de concentration. Alors il y en a qui se cachaient et devenaient fous parce qu'ils se cachaient pour pas y aller. Donc on a vécu toutes sortes de situations. Donc il y avait de quoi raconter, hein, parce que ça traumatisait. Et c'était ce qu'ils ont vécu là, à Gédéon. Vous voyez, c'est que c'est un traumatisme de la part de la férule de l'ennemi, hein, de Madian. Hein. Et là, voilà que l'ange dit, vous êtes un héros. Hein. Quoi? Un héros? C'est impossible, vous voyez, guerre mondiale, vous rendez compte, il fallait toute la puissance de l'Amérique et tout ça, des alliés pour chasser. Et là, l'ange lui dit, mais non, tu es un héros. Quoi? Vous voyez, là, on rentre dans la stratégie de Dieu. C'est plus une stratégie humaine. Et il dit, va avec la force que tu as. Et très souvent, nous, on dit, mais non, je suis pas capable. C'est vrai que t'es pas capable. Mais c'est justement parce que tu es pas capable que Dieu va t'envoyer. Amen. Nous, on veut chercher à être quelqu'un, avoir une puissance, avoir. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est là qu'on va se planter. Parce qu'on va compter sur cette puissance. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de puissance, hein. Il faut pas être complètement une lavette, écrasée comme un mollusque et tout ça. C'est pas ça. C'est simplement avec la force que tu as. Le Seigneur va pas te puiser toute la force pour dire maintenant t'en as plus. Non. Va avec la force que tu as. Amen. Il y en a qui ont un peu de force ici. Va avec la force que tu as. Amen. C'est ça que le Seigneur te dit. Va avec la force que tu as et tu verras ma puissance. Amen. C'est ça la foi. La foi, c'est va avec la force que tu as et tu sauveras Israël la main de Madian. Waouh! C'est pas un petit plan, ça. On est compte? Sauver Israël. C'est un peu comme si, toi, tu étais en 45, un gars complètement paumé dans la Creuse, là, au fond, et puis l'ange te dit, tu vas sauver la France de la main des Allemands. Waouh! C'est fou, ça. C'est ce qui est arrivé à Gédéon. Imaginez un peu. Il faut imaginer les scènes. Hein. Et ben voilà, l'ange lui dit ça. Alors il répondit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël ? J'ai rien, moi. J'ai un bâton pour le front, c'est tout. J'ai peut-être une épée qui est cachée, mais parce qu'elle est interdite, donc on l'a cachée. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Et oui, il est obligé de rabâcher l'ange. Et tu battras Madian, je suis avec toi. Mais pour le croire, vous rendez compte, vous verrez tout, là j'ai pas le temps de faire tout ce message, mais tout le parcours jusqu'au chapitre 7, que l'ange doit ferrailler avec Gédéon pour faire une métanoïa. Il y en a qui savent ce que c'est que la métanoïa. Il y a beaucoup qui font le temps qui purifie, ça me réjouit beaucoup parce que je sais qu'on sera tous changés. Amen. Amen. Et on passera plusieurs fois dans le torrent. Hein. Parce que c'est des métanoïas, changement de pensée, changement de paradigme, changement de conception, changement de point de vue, changement de... Et là, il y a un changement important chez Gédéon qui doit venir, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Entre chapitre 6 et chapitre 7, c'est plus le même. Mais il bataille. Il bataille avec lui-même, il bataille avec Dieu, il bataille avec l'ange. Il dit quoi, moi? Je vais sortir Madian, c'est pas possible, je suis le plus petit. La plus petite maison, le plus petit parmi la famille, rien du tout, un ver de terre. Et moi, je vais sauver Madian. Mais c'est quoi ça? Comprends pas. Il lui répondit, si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Et vous là, il va plus loin, il dit, attends, tu insistes là? Je peux pas croire ça, il me faut un signe. Hein? Et là, j'ai pas le temps de voir la suite, mais la suite, le signe, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui demandent des signes. Ah, je veux un signe. Ouais, je veux acheter un piano, on me fait un signe. Je veux acheter une voiture, j'ai un signe. Non, les signes ne sont pas faits comme ça pour acheter des choses ou pour recevoir des choses. Ouais. Là, c'est une mission. Et en fait, quand on regarde de près le texte, Gédéon ne doute pas de Dieu. C'est un homme qui sait qui est Dieu, mais il doute de lui-même. Et ça, c'est une bonne chose. Il doute de lui-même. Il doute que c'est pas possible que lui soit choisi. Et il doute de lui-même en disant, mais attends, moi j'ai plein de défauts, j'ai plein de choses qui vont pas, et tout ça, et moi je dois délivrer Madian, moi je dois être le chef de l'armée, je dois... Attends, vous voyez, il doute de lui-même. Mais je crois que c'est bon de douter de soi-même. Hein. Ce qu'il faut, c'est ne pas douter de Dieu. Et le signe, on le voit plus tard, hein, et là je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais le signe, c'est parce qu'il se dit, ah, est-ce que moi je pourrais conduire des hommes? Est-ce que moi je pourrais être un stratège? Est-ce que moi je pourrais pas faire d'erreur dans tout ça, voyez? Et il veut être sûr que Dieu soit bien lui qui soit choisi. Que ce soit pas un autre, que ce soit pas... Parce que vous savez, quand vous êtes dans la bataille, là c'était la préparation. Hein, ça c'est la préparation. Mais quand vous êtes dans le conflit, hein, nous on a connu ça, vous n'avez pas droit à l'erreur. n'avez pas droit à l'erreur. Bon, le Seigneur permet que ce ne soit pas fatal. Mais quand vous êtes dans un conflit avec des puissances, là, attention, hein, ça chauffe. Hein. Donc là, il faut être prêt. Et il faut être prêt à ne pas douter au dernier moment de soi-même. Hein. Il faut savoir que le Seigneur nous a utilisés. Il faut aller jusqu'au bout. Amen. C'est ceux qui vont jusqu'au bout qui gagnent. Parce qu'un combat, c'est un vrai combat. Un combat spirituel, c'est pas une sinécure. Hein. C'est que il faut savoir où est le but. Le but, c'était de sauver Israël des Madians. Donc le but, il y avait un parcours. Hein. Un parcours avec des batailles, des combats, avec des revirements de situation, enfin, comme une vraie bataille, quoi. Je veux dire, l'ennemi, les démons, c'est des vraies personnes, hein, c'est des vrais êtres. Donc, ils se laissent pas faire, hein. Donc, vous voyez, il faut toujours utiliser le nom de Jésus, il faut rester en sanctification, enfin, il y a beaucoup de choses à faire, des jeûnes, des prières et tout ça, enfin, il y a beaucoup de choses à faire, il faut établir le droit, la justice, enfin, il y a tout un arsenal de choses à faire, et là, il faut pas douter de soi, hein. Il faut dire, Seigneur, je suis dans la mission que tu m'as donnée, je vais y aller, je vais continuer. Hop, j'ai peut-être mal au genou. Bon, Seigneur, tu vas le rétablir. Je reste un moment, je me relève. Vous voyez, c'est tout ça. Hein. Et là, il faut pas douter de soi. Donc, il faut être préparé avant. Et là, tout le chapitre 6, c'est la préparation de Gédéon au combat. Je vais juste vous donner. Alors, j'avais la démarche de Gédéon, mais je vais passer aux 7 principes de la victoire. C'est le chapitre 7. Pour que vous puissiez l'appliquer dans votre vie. Le chapitre 7, c'est la victoire. C'est comment Gédéon a la victoire sur les Madianites. Et là, on voit une stratégie, parce que Gédéon est confiant dans l'Éternel, et il suit pas à pas, parce qu'il a appris l'obéissance. Et là, nous avons ces 7 principes de victoire. Le premier, au chapitre 7, verset 15, c'est « Lorsque Gédéon eut entendu le récit, etc., il se prosterna, levez-vous, dans le camp, et, attendez, ce 15 à 17, voilà, il dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. » Un vrai chef. Vous savez, en France, on a peur des chefs. Pourquoi ? Parce que des chefs, c'est pas des chefs. On a la caricature du chef qui impose, qui fait n'importe quoi, qui est pas compétent et qui vous demande des choses. Ça c'est le chef gaulois, ça. Mais le vrai chef, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour la mission à laquelle il est donné. On a besoin de vrais chefs et de vrais cheftaines. On dit ça comme ça pour les filles, les cheftaines, non? Je sais pas. Les chefs. Moi je dis chef pour tout le monde. Non? Comment on dit Abigail? Cheftaine. Moi, ça fait un peu scout, moi, cheftaine, mais bon. Ça fait un peu diminutif, mais bon, si vous trouvez ça que c'est bien. Donc, des chefs et des cheftaines. Non, on a besoin de chefs. Hein? Dire des hommes et des femmes qui se tiennent debout devant l'ennemi et lui dire, tu n'auras pas la victoire. Parce que Jésus a vaincu à la croix et je me lève contre toi. Et alors là, il faut pas avoir la trouille, hein. Pas trembler dans son froc, hein. Il faut aller jusqu'au bout. Et Gédéon, il a dû apprendre ça. Hein. Et il a dit, faites comme moi. Mais quand vous dites, faites comme moi, c'est marrant parce que moi j'avais un chef qui est devenu directeur dans une usine à Amiens. Et quand il est revenu 2 ans après, il dit, oh là là, j'ai la trouille. Parce que quand il était au bureau, vous savez, c'était polytechnicien, tout ça. Directeur dit quelque chose. Personne ne fait rien. Ils attendent juste qu'ils changent d'avis. Il dit, personne ne suivait. Là-bas, dès que je dis quelque chose, tout le monde fait. Il était affolé. Il dit, mais si je fais une bêtise, tout le monde fait des bêtises. Vous voyez, il était, regardez-vous, chef, chef, chef. Vous voyez, bon, ben, il avait la trouille. Il a dit, mais attends, si je fais quelque chose. Et donc, le chef, quand c'est un vrai chef, quand il est obéi, là, ici, il n'obéissait pas, donc, ça pissait comme un violon. Mais quand c'est un vrai chef, s'il se trompe, tout le monde se trompe. C'est une responsabilité, ça. Gédéon était un vrai chef, parce qu'il était animé de Dieu, et toute cette préparation du chapitre 6 la prépare à ça. Et quand vous voulez être un chef, Eh ben, il faut dire, faites comme moi. Waouh. Ben oui, il faut être sûr de son identité, là. Il faut être sûr de son identité. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a dit, soyez mes imitateurs. Vous voyez, quand vous êtes des hommes et des femmes de Dieu, il faut arriver à devenir des chefs, selon la parole de Dieu. Et pour ça, il faut être préparé. Il faut une préparation. Il faut suivre. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Que nous devons être les... Comme quoi? Comme Jésus. Qu'est-ce qu'a dit Nathalie, ceux qui sont torrents qui purifient? Vous n'avez pas... Vous rappelez plus? Oui, mais par rapport à ça. Elle a dit, le torrent qui purifie devrait vous amener à être comme Jésus. Il y en a qui se rappellent de ça? Il y en a qui veulent être comme Jésus? Vous croyez que c'est possible? Non? Voilà. Le torrent qui purifie devrait vous amener à être comme Jésus. C'est pas un leurre. Jésus était parfaitement homme. Il a parfaitement obéi. Bien sûr, nous n'y arriverons jamais. Bon, vous enlève l'illusion de l'aspect parfait de devenir comme Jésus. Mais vous allez vous rapprocher de cet état-là. En marchant par l'esprit. Amen. Et en vous rapprochant le plus possible, ça s'appelle la maturité. Encore une fois, la maturité. Voilà. Amen. La vision de l'Église. La vision de l'Église, c'est que de la maturité. C'est comment vous pouvez devenir mature. Mûr pour ressembler à Jésus. Un, faites comme moi. Principe de la victoire. Deux, donc c'est le TQP. Deux, verset 18, sonnez du cor. Quand je sonnerai du cor, et vous, toujours le chef, hein, Gédéon va sonner du cor. Sonnez du cor, ça veut dire quoi? Sonnez du cor, ça veut dire engager le combat. Et à un moment donné, il faut engager le combat. Pas n'importe quand, il ne faut pas se tromper. Engager le combat, c'est au bon moment. Et ça, c'est de la stratégie. Et donc, deuxièmement, il faut être à l'écoute du Seigneur. Engager le combat. Le témoignage, votre témoignage, mon témoignage doit être clair. Clair, net. Moi, je ne suis pas trop anglo, enfin, comme Michel. Donc, j'arrive pas toujours à suivre ce qu'elle me dit parce que il faut vraiment être dans la langue pour comprendre. Et elle me dit, Foursquare, c'est un jeu de mots. Moi, je ne savais pas que c'est un jeu de mots. Foursquare. Tu peux dire ce que c'est? Non, mais, vous savez, quand vous êtes dans une langue, vous dites, surtout les jeunes comme ça, tout le monde comprend parce que vous êtes dans la langue. Et qu'est-ce que ça veut dire Foursquare en américain?
Ça veut dire à la fois très carré, ça veut dire aussi, ça fait allusion aux quatre évangiles. C'est un jeu de mots extrêmement riche en fait. Quand on est Foursquare, ça veut dire qu'on est très, très carré dans ce qu'on dit. Et en même temps, ça fait allusion aux quatre évangiles, et il y en avait encore deux autres que j'avais trouvés hier. Oui, et quand on est forcé, ça veut dire qu'on est net et clair dans son message. Donc c'est un jeu de mots très très riche qu'elle avait choisi.
Parce que c'est Charlie Chaplin qui était son ami, il a été ami de tous les grands artistes d'Hollywood. Donc quand vous êtes Foursquare, vous êtes net et clair. Vous l'êtes Foursquare? Enfin, en français, ça marche pas, le jeu de mots existe pas. Ça marche pas. Mais bon, étant donné que c'est ce mot-là qu'on utilise, il faut être net et clair dans votre témoignage. C'est ça, sonner du cor. Amen. Là, il y a des chrétiens qui disent, je vais témoigner un peu, mais faut pas trop qu'ils sachent que je suis chrétien. Voilà. Vous voyez, non, soyez net et clair. Ça veut pas dire qu'il faut agresser les gens. Hein. Il faut dire net et clair. Hein. En fonction de ce qu'ils sont capables d'entendre, mais il faut que ce soit net et clair. Ça, c'est engager le combat. Troisièmement, il faut briser les cruches. Là, vous avez tous compris ce que c'est. Briser les cruches. Nous sommes quoi? Des... des cruches. Qu'est-ce qu'il dit qu'il est une cruche, là? Michel, c'est une cruche? Vous l'êtes des cruches? En des vases. Mais des vases de... T'es quoi, une vase? Tu veux de quoi comme vase? Ah, tu veux être un vase de... Mais tu es quoi? Vase de terre. Ah, si tu te sens pas vase de terre, il faut qu'on prie pour toi, parce que là, ça deux fois, hein. La troisième, c'est fini. Compliqué. Goliath, il veut être un vase d'honneur. Il est un vase d'honneur. Là, tu cumules. Nous sommes un vase de terre. Ok? On le voit tous les jours, la maladie, le machin, etc. Bon. Mais c'est ça que Dieu choisit. Il a choisi Gédéon, qui est un vase de terre. Nous sommes un vase de terre pour que... Alors, pourquoi le Seigneur utilise un vase de terre et que nous devons rester un vase de terre, que nous, à nos yeux, nous devons rester un vase de terre, même si Dieu veut faire de nous un vase d'honneur. Pourquoi? Alors, écoutez bien la réponse.
Pour qu'il soit glorifié, lui.
C'est pour que Jésus soit glorifié. Donc, ne vous lamentez pas si vous êtes un vase de terre, si vous sentez faible, etc. L'apôtre Paul le disait. C'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Amen. N'ayez pas peur d'être faible. Simplement, restez en relation avec Dieu et vous allez voir que dans votre faiblesse, paf, 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 il y a un château de cartes, les ennemis vont tomber devant vous. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Vous le croyez? Si vous le croyez, vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc n'ayons pas peur d'être des vases de terre. Nous sommes des vases de terre. Nous resterons des vases de terre jusqu'au moment où nous allons revêtir notre nouveau corps. Quatrièmement, il faut saisir les torches. Verset 20. Saisir les torches. Les torches à l'époque, c'était quoi? La résine. Bien. Et pour faire une torche, comment ça se passait? Quel est le processus de faire une torche avec la résine? Voilà. Est-ce que c'était immédiat? Il faut accumuler de la résine. Ok? Comme les abeilles, là. Accumuler de la résine. Et petit à petit, ça fait une torche. Vous ne pouvez pas être une torche du jour au lendemain, en tant que chrétien. On est déjà une cruche. Donc pour être une torche, hein, il faut du temps. Accumuler. Vous ne pouvez pas être un chef du premier jour, vous pouvez être un sous-chef, mais un chef, ça prend du temps. Il faut que vous accumuliez de l'expérience avec des erreurs. C'est avec les erreurs qu'on apprend le plus, en tout cas. Moi qui apprends le plus avec les erreurs. Il faut accepter les erreurs, il faut accepter les chutes pour se relever après. Et ça, c'est la résine, la maturité, et vous devenez des torches. Et après, vous pouvez brûler, vous pouvez briller. Acceptez qu'un processus se fasse dans vos vies et que vous ne soyez pas du jour au lendemain, vous puissiez briller, mais que le Seigneur va briller au travers de vous si vous acceptez de devenir des torches. Cinquièmement, il faut proclamer son nom. Amen. À proclamer son nom, proclamer l'Éternel quand il a engagé le combat. Amen. Il a glorifié le Seigneur. Sixième, verset 21, c'est très important. Pour la victoire, chacun a... Rémi, vas-y, reprends. Non, t'as failli gagner là. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Ça c'est important. Or c'est très difficile pour un Gaulois ça. Oh là la vache, chacun a sa place, mais je veux ta place moi. Hein? Ben oui. Chez les Gaulois, tout le monde veut la place de l'autre. Vous n'avez pas vu ça dans le travail là? Hein? On broute à côté là, ah oh, oui c'est mieux là-bas. Hein? Moi, le chef m'a donné ça, mais non, moi je vais autre chose. Hein. Ah, c'est gaulois ça. Là, on a du boulot là. Torrent qui purifie là. Faire du ménage. Chacun a sa place, vous rendez compte? Ah, pour les Américains, c'est plus facile. Hein. On leur apprend ça tout petit, chacun a sa place. Moi, quand j'étais avec les enfants au Canada, j'ai demandé quel est le timbre qu'il faut pour l'Europe. J'ai demandé à un postier. Il a dit non, moi je suis chauffeur. C'était un postier, il avait la casquette. Machin, mais il conduisait. C'était son copain à côté qui était en train de chercher le truc et demandait-lui. J'ai demandé, oui, il m'a donné. Mais lui était chauffeur. À ce moment-là, il était chauffeur. Chacun sa place. Bon, ils ont plus de discipline que nous, bon, c'est moins de souplesse. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais nous, on veut tout faire. Bon, c'est vrai qu'on a des génies aussi. Hein. Mais je veux dire, chacun a sa place. Les hommes à leur place. Il y a des hommes ici? Ben, soyez à votre place. Il y a des femmes ici? Soyez votre place. Cherchez pas à être des hommes. Ou les hommes à être des femmes. Ça s'appelle des femmelettes, ça. C'est pas péjoratif pour les femmes. Hein. C'est péjoratif pour les hommes. Non, chacun à sa place. Les jeunes à leur place. Vous savez, il y a beaucoup de choses, moi, qui me hérissent. Pardon? Les omelettes. Bien. Les omelettes. Vous savez pas des omelettes. Moi, ça m'hérisse toujours quand on dit... Ah, il faut les jeunes, il faut les jeunes, il faut que les jeunes prennent la place, il faut que la nouvelle génération prenne sa place. Moi, j'ai rien contre les jeunes, moi j'aime beaucoup les jeunes. Mais chacun a sa place, ça c'est biblique. Vous voyez ? Il faut que les gens âgés aient leur place aussi dans l'église. Amen. Ils sont pas là encore à l'article de la mort, ils ont leur place. Vous dites amen ? Hein ? Tout le monde a sa place. Chacun a sa place. On le dit tous ? Encore une fois, chacun... Il faut que l'esprit gaulois s'en aille là. Chacun... Encore une fois. Encore une fois. C'est un principe de victoire. Amen. Selon Dieu, hein. Chacun a sa place. Bon, je crois que vous avez compris. Dernier point. Verset 22. Verset 22, c'est quoi ? Tout simple. Laissez Dieu agir. Amen. Gédéon avait tout fait, tout fait, toutes les stratégies de victoire, et il n'y a plus qu'à regarder la victoire de Dieu. Voyez-vous, nous, c'est l'obéissance qui est le plus important. Dieu, ce n'est pas un problème. Il a la victoire, il a la puissance, il a créé l'univers, il peut tout faire. Tout. Mais le problème, c'est que nous, on arrête son bras avant. Il dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'il a fait là ? Ah ok, d'accord, bon, bah, il a fait autrement. Mais si vous faites tout jusqu'au bout, vous voyez Dieu agir. Amen. Nous, on l'a vu, dans le plus grand combat spirituel qu'on avait, à un moment donné, on a dit, waouh, 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 on ne faisait plus que regarder. Hein? C'est ça, quand Dieu agit, eh bien, vous avez une victoire totale. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez dans le camp ennemi qu'est-ce qui se passe. Quand, vous voyez, le Gédéon, là, je ne lis pas tout, mais vous connaissez l'histoire par cœur, qu'est-ce qui s'est passé dans le camp ennemi ? Comment est-ce qu'il a eu la victoire, Jérémy ? Tu te rappelles ? Non ? Rémi ? Pardon ? Ils se sont entretués entre eux. Confusion. Pour Dieu, c'est très simple. Comment il fait pour envoyer la confusion ? Non, mais comment il fait ? Techniquement, stratégiquement, comment il fait Dieu ? Pardon ? Oui, non, mais comment il fait ? Comment il fait ? Non, non ! Oui, ça peut être un voile. Comment il fait ? Pardon ? Ah oui ? Il dit esprit de confusion, hop, tu vas là-bas. C'est très simple. Il a tous les esprits. Vous savez qu'il n'y a pas que les anges de Dieu qui sont sous ses ordres. Les démons aussi sous ses ordres. Ok ? Donc il dit, toi esprit de confusion, t'es un bon toi, hein ? T'as de l'expérience toi, hein ? Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah non, mais attends, je ne vise pas. T'es un esprit de confusion. Ouais, ouais, tu as gagné telle bataille, tout ça. Allez hop, tu vas là-bas. C'est fini. Ça se fait tout ça. Voyez-vous, Dieu, il est puissant. Amen. Et c'est ce qui se passe quand nous, on est des témoins, quand on est des lumières. Vous voyez, si vraiment il y en a qui veulent vous attaquer, ben, il y a la confusion. Et aujourd'hui, les Français qui se veulent ainsi. Si intelligents, tout ça, eh bien, ils entretiennent la confusion dans le refus d'obéir à Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes qui connaissons le Seigneur et qui sommes obéissants à sa voix et qui suivons sa stratégie pour remporter des victoires. Et alors là, vous voyez, quand on est dans un combat et qu'on combat avec ses forces, on n'a plus le temps parce qu'on s'épuise. Mais quand on regarde, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut avoir de la compassion pour ceux qui s'entretuent. Vous avez du temps. Et vous pouvez faire Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde et vous pouvez prier pour eux. C'est-à-dire bénis-les, prie-les. Ils s'entretuent. Mais Seigneur, bon, c'est pas mon problème. Et vous pouvez les bénir. Et au travers de ça, pendant qu'ils s'entretuent, enfin, quand là bon, ils ne sont pas forcément morts à la fin, hein, mais vous savez, dans les trucs, au travail, tout ça, ils peuvent faire. Eh bien, ils vont dire, mais pourquoi celui-là? Il est aussi calme, il est aussi calme, il prie pour nous, tout ça. Et c'est ça qui va les toucher. Amen. 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 Moi, j'ai vu des choses quand je me suis converti. J'étais dans une école d'ingénieurs. Bah, tiens, c'est parce que tu me fais rappeler ça, toi. Je suis arrivé là-bas, moi, j'étais ingénieur, j'étais catholique, donc je ne savais pas que les évangéliques existaient. Puis j'arrive là, je dis, mais il faut que je leur parle du Seigneur. Ok, alors j'ai rencontré un gars du GBU qui dit, bon, bah, je vais t'aider. On a fait une soirée d'évangélisation. Toute l'école est venue, directeur, sous-directeur, tout le monde, quoi, staff, machin, etc. Tout l'amphi était plein. Waouh, wow. On a témoigné. Et après, bon, il y a eu tout. plein de choses, etc. Il y en a qui m'ont craché dessus, qui m'ont machin, etc. Moi, et je voyais qu'il y avait de la confusion. Il y en a qui sont venus, mais comment ça se fait que tu es comme ça, etc. Vous voyez, vous créez autour des gens qui cherchent, qui regardent, mais comment tu es comme ça, vous voyez, parce qu'ils sont interpellés par ce qui se passe des ennemis sur vous et comment vous gérez la situation. Et ça, c'est le témoignage de la puissance de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons comme Gédéon. Amen. On va terminer juste. Est-ce qu'il y en a qui veulent être des Gédéons ici? Qui veulent suivre sa stratégie? Je vous invite à vous lever. On va prier et se consacrer au Seigneur avant de terminer. Seigneur, nous te louons. Parce que Seigneur, nous ne voulons pas que cette histoire de Gédéon soit simplement une histoire sainte dans ta parole. Mais Seigneur, une histoire actuelle. Et Seigneur, tu vois tous ceux qui se sont levés, qui veulent être des Gédéons pour toi. Eh bien Seigneur, dans leur génération, tu vas leur donner toutes ces étapes de victoire. Et Seigneur, merci de ce que tu vas les équiper, les utiliser dans leur travail, dans les situations qu'ils vivent aujourd'hui, afin qu'ils puissent, Seigneur, délivrer Israël, délivrer ces hommes et ces femmes qui sont dans les chaînes, au travers de leur témoignage, ils vont les délivrer et les amener dans ta connaissance. Bénis-les, fortifie-les, accorde-leur ta grâce et ton esprit maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen.